France Musique.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
Escapade, Martin Bénet, France Musique.
Comédien hors pair, autant que musicien accompli, Bourvil a donné à la chanson, à l'opérette et au cinéma des rôles qui ont marqué la mémoire sensible de tous les Français. La semaine dernière, nous avons vu comment il a appris la musique dans la fanfare de son village, puis lors de son service militaire effectué à Paris peu avant la guerre. Mobilisé en septembre 1939, André Rimbourg est affecté comme brancardier. La débâcle de juin 40 le conduit à Pau, où il fait la connaissance du jeune accordéoniste Étienne Lorrain, qui deviendra son alter ego en composant par la suite la musique de beaucoup de ses chansons. De retour à Paris au début de l'occupation, André entame une période de vache maigre où il fait toutes sortes de petits métiers pour survivre et tente sa chance dans les cabarets et les music-halls. Pour se composer un personnage, il adopte le pseudonyme de Bourvil, d'après le nom du village normand de son enfance, et se peigne les cheveux vers l'avant avec une espèce de frange qui lui donne un air ahuri. Ses premiers engagements au music-hall ont lieu à partir de 1942, en levée de rideau de différents établissements. Alhambra, Casino Montparnasse, Petit Casino, Théâtre de l'Étoile, Folie Belleville. C'est le temps des œufs au plat dans une chambrette de la rue de Clichy. Mais Bourvil le racontera bien mieux lui-même au cours de la célèbre émission d'Henri Spade « La joie de vivre », enregistré en novembre 1953 au Music Hall de l'Alhambra.
J'ai dit à ma mère, moi je m'en vais faire l'artiste.
Ah.
Elle m'a dit l'artiste ? Ah ben alors, ça va pas mieux qu'elle m'a dit. Alors j'ai pris le pantalon de mariage de mon père, une veste de mon frère, elle m'a fait un petit nœud papillon, puis je suis parti avec mon costume au sein. Malheureusement, quand je suis arrivé à Paris, j'avais plus la caserne pour me nourrir. Puis je vivais dans une petite mansarde au 54 rue de Clichy.
Tout seul ?
Non, avec un autre copain de régiment, un gars qui joue du trombone, un gars qui joue dans les bastringues, qui joue un peu dans les cours aussi, enfin...
Comment il s'appelle ?
Hein ? Charles Huss. Il travaillait son trombone et moi je travaillais ma trompette. C'était gai pour les voisins. Surtout que lui, il était obligé d'ouvrir la fenêtre pour allonger son trombone parce que c'était tellement grand chez nous. Il y avait pas de gaz ni de chauffage, mais quand même, l'hiver, hein, c'est bizarre, il faisait froid. Hein? Et nous couchions tous deux ensemble. Il rougit. Hein? Mais il peut pas dire que c'est pas vrai. Moi qui toussais, lui qui éternuait. Pour subvenir à mes besoins, c'est bien dit ça, hein?
Oui.
La concierge me faisait faire quelques parquets, je faisais des petits trucs comme ça, et une fois je suis rentré, heureusement, chez un expert comptable à la fiduciaire, chez Monsieur Goubeau, qui me laissait quelques libertés, et ça me permettait de faire des cachets. Et je me souviens, j'accompagnais Bordas à l'accordéon à l'ABC, en 42, je crois. Après, j'ai fait des auditions un peu partout et les directeurs me disaient « on vous écrira ». Et en effet, ils m'écrivaient pour me dire qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Et puis un jour, je suis allé faire une audition chez M. Carrère, qui tenait un cabaret aux Champs-Élysées. Et lui ne m'a pas dit « on vous écrira ». Et pendant que je chantais ma chanson... Il riait tellement qu'à un moment, je me disais, c'est pas possible, il doit se fiche de moi, celui-là. Et à la fin, je me suis dit, il va me dire, on vous écrira, mais pas du tout. Il m'a dit, je vous engage pour vendredi. J'étais pour lui dire, dites, hein? À d'autres, on me la fait pas. Et ben non, j'ai engagé pour 2 semaines. J'y suis resté 6 semaines. C'était un spectacle assez, une salle assez snob. Les dames étaient assez face à main, n'est-ce pas? Alors je chantais toujours « Nini, pipi, caca, popo ». J'insistais, moi, vous savez. Et les dames disaient « il est amusant, ce garçon ». Et ce garçon, à la suite de ça, est venu ici à l'Alhambra, c'était mon premier musical, en octobre 42. Vous voyez, ça fait déjà 11 ans. Et alors, ensuite, je suis allé à Montmartre, et puis là, je me suis dit « je vais écrire des chansons ». J'ai dit « qu'est-ce que je risque, hein ?» Et puis, je suis resté là-haut pendant 3-4 ans. la libération est arrivée et j'ai présenté mon matériel à la radio, d'abord à François Châtelard et ensuite dans une émission sans rime ni raison de Francis Blanche et Pierre Court. Pendant que je chantais à la radio, il s'est produit quelque chose de bizarre. Un auditeur s'est particulièrement intéressé à mon tour et... Ah ben si vous voulez, on va demander à l'intéressé de venir lui-même. Oui. Ce lui-même s'appelle Jean-Jacques Vital.
J'écoute rarement la radio, vous le pensez bien, on ne peut pas être à la foire et au moulin. Et ce soir-là, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu Bourville. Et je me suis dit, c'est fantastique. C'est fantastique dans le comique, assis. Parce que dans le comique, ça a été pour moi une révélation extraordinaire. Je me suis dit, ce gars-là est étonnant, il va faire une carrière de champignon, il va pousser, ça va être... Mais si, c'est...
Faire rougir, les gars.
Qui prouve que je ne m'étais pas tellement trompé. Et le lendemain matin, immédiatement, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, j'aimerais bien vous voir. Il est venu, et je lui ai dit, c'est vous le comique? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, bien, j'aimerais bien vous avoir dans une émission que je commençais à l'époque, et qui s'appelait Pêle-mêle. Mais il m'a dit, je ne sais pas si vous allez beaucoup m'aimer. Je lui ai dit, mais si, la preuve, c'est que je vous ai entendu hier soir. Je vous ai trouvé très bien. Il dit, mais rappelez-vous, vous m'avez déjà foutu deux fois à la porte de votre bureau. Et le plus curieux, c'est que c'est vrai, il était venu me voir deux fois au bureau. Je lui ai dit, mais oui, mon vieux, les comiques, je les connais. Mais oui, vous avez le bonjour, etc. J'avais jamais le temps de le recevoir. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Mmh. C'est comme ça que Bourville a débuté en pêle-mêle, dans le pêle-mêle. Mmh. Et ce qui ne s'était probablement jamais produit dans les annales du musical, c'est produit là. En 6 émissions, Bourville est devenu probablement à l'époque la plus grande vedette de musical français. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une opérette ensemble?
Hein? Oui, on a eu la bonne hôtesse. Et c'est ici, ma mère est venue me voir sur scène pour la première fois ici, dans cette salle. Elle m'a embrassé, puis elle m'a dit, sacré André, tu ne changeras pas. Et elle a ajouté après, tu diras toujours des bêtises. Et les bêtises que je disais dans cette opérette, ce n'était pas de moi, n'est-ce pas? C'était des auteurs. Et les auteurs, ils étaient dans les loges. Et le plus marrant, c'est que les auteurs, c'était Serge Weber, Cocatrix, et Jean-Jacques Vital.
Dès ma première apparition en ce monde, je surpris des observations à la ronde. Il est marrant, dit grand-maman, il est tout mou, fit ma nounou. Quelle gueule qu'il a, fit mon papa, je n'ai jamais vu ça. Mais tout guiré, je répondais, je suis content, ça marche. Dès qu'on me voit, on parle de moi. Je suis content, ça marche. Je suis une personnalité. Déjà dès ma première tétée, tout en tétant, j'allais chantant. Je suis content, ça marche. Et depuis, bien sûr, j'ai grandi, c'est logique. Et je sais toujours ce qu'on dit, mon physique. Quel drôle de cheveux, dit un monsieur. Quel drôle de dents, fait un quidant. Ah, quelle binette, pense une brunette. C'est fou ce qu'il a l'air bête. Mais moi, je me dis, charmé, ravi. Je suis content, ça marche. Si je n'avais pas cette binette-là, je ne pourrais sans doute pas dire ça marche. Et au lieu de venir là à l'œil, je paierais 200 balles mon fauteuil pour ne voir dans le fond qu'un pauvre couillon. Je suis content, ça marche. Si vous vous sentez le bourdon, répétez donc sur tous les tons. Je suis content, ça marche.
Cette profession de foi quasi autobiographique d'un artiste en plein essor est tirée de l'opérette La Bonne Hôtesse, créée en décembre 1946 dans la vaste salle de l'Alhambra, temple du spectacle de la rue de Malte, aujourd'hui disparue. Après cette première expérience concluante, Bourvil poursuivra son chemin d'étoile avec d'autres rôles écrits sur mesure. Dès l'année suivante, en décembre 1947, l'Alhambra affiche une autre opérette des mêmes auteurs, Jean-Jacques Vital et Bruno Cocatrix, intitulée Le Maharaja. C'est une nouvelle occasion pour le comédien-chanteur de provoquer l'hilarité et de tester son capital sympathie. Un des numéros de bravoure du spectacle est la chanson, ou plutôt le sketch, « Musique, musique » qu'il refera pour la radio en avril 1951 dans l'émission « Vivre et sourire ».
Je vous joue le morceau, et après chaque son, je vous donnerai la description de l'image pour que nous puissions nous évader ensemble. Ça, c'est le vent dans la ramure. Est-ce que vous voyez l'image? Ça? Ça, c'est le chant des petits oiseaux. Est-ce que vous voyez l'oiseau? Ça, c'est le clapotis de l'eau. Ça, c'est le murmure des turbines. Est-ce que vous sentez que vous vous évadez? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on... Ah oui, c'est le murmure, c'est le bruit de l'aéro. Hein? Bon. Ça? Ça, c'est le clapotis de l'eau. Ah, je l'ai déjà dit, ça. C'est autre chose, pensez. C'est autre chose. Ah oui, c'est le glou-glou de l'apéro. Chaque note évoque la vie, chaque son évoque un climat, beauté de la poésie. Ne trouvez-vous pas musique, musique, musique? L'univers ne serait qu'un chaos, sans tes sols, sans tes mi, sans tes do. Musique, 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 musique. L'univers ne serait qu'un fatras, sans tes ré, sans tes mi, sans tes fa. Ah oui, je t'aime, musique, musique. Ah oui, je t'aime, éperdu.
Bourvil joue du violon, de l'accordéon, du cornet à piston et donc du cor. Des aptitudes musicales que les auteurs ne manquent pas d'exploiter pour écrire ses rôles. En plus des opérettes, le comédien est également sollicité par le cinéma. Ses premiers films ne sont certes pas des chefs-d'œuvre, mais ils lui permettent de camper son personnage d'ahuri pas si bête et de pousser la chansonnette. Cela commence en 1945 avec La Ferme du Pendu, où il reprend son premier succès Les Crayons. L'année suivante, dans Pas si bête, il chante Pour sûr et quand même. En 1947, Par la fenêtre lui donne l'occasion de célébrer les peintres en bâtiment avec la rumba du pinceau. Et dans Blanc comme neige, il rend hommage au cornet à piston avec lequel il a appris la musique. En 1948, Le cœur sur la main comporte une chanson anglaise et un air de bal Sous la lune. Enfin, dans Le roi Pandore, en 1949, il entonne un hymne à la maréchaussée qui restera fameux. Quatre de ses premiers films, entre 1946 et 50, sont réalisés par André Berthomieux. Ce dernier retrouvera Bourvil en 1959 dans l'émission « Soyez les bienvenus » pour évoquer ce passé alors pas si lointain.
Je ne peux pas évoquer mes souvenirs sans vous parler d'un comédien que vous connaissez tous et qui est un garçon charmant, d'abord parce que c'est un pays à moi, c'est un gars normand comme moi. On est tous les deux du même bled. Hein, mon Bezo ?
Mais oui, mon père.
Comment vas-tu ? Comment ça va-t-il ?
Ça va-t-il.
Ça va, mon gars ? Alors voilà, on est d'Arlan tous les deux. Si vous voulez savoir, c'est Monsieur Bourvil.
Des concerts parisiens.
Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est au concert que je l'ai connu, en effet. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de le faire faire un petit peu de cinéma. Oui. Je l'avais entendu un jour, on m'avait dit, ah, il y a une émission, mon vieux, il y a un gars qui a un charme fou. C'est un chanteur de charme épatant. Il va remplacer Tino Rossi. Je me suis dit, il faut absolument que j'engage ce gars-là. Mmh. Et en effet, j'ai entendu mon Bourvil qui faisait quoi ? Tu te rappelles, tu chantais une petite chansonnette.
Ah oui, ça s'appelait The Pencil.
En anglais. Et en français,
les
ça
crayons.
S'appelait Les Crayons. Eh bien, fais-nous entendre ça.
Mais oui.
Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons ? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste.
Voilà, c'est bien triste.
C'est bien triste, mais enfin ça faisait rire beaucoup les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai engagé pour faire ce film qui s'appelait Pas si bête.
Pas si bête, oui.
Où tu faisais un bon paysan normand, c'était un film folklorique.
Je n'avais pas à jouer d'ailleurs.
Oui, c'était pas une composition, tu étais tout à fait nature. Je me souviens un jour que nous étions en extérieur, tu t'empêtrais un peu dans tes répliques et tu m'as dit cette chose charmante. Tu m'as dit... « Donnez-moi la charrue qui est là, je vais vous la tenir bien droit, ça sera plus facile pour moi que de vous dire mes répliques. » Avoue que tu as un petit peu changé maintenant, surtout que tu as été couronné
Suivi des cours du soir.
Oui, d'accord. Oui.
J'étais à l'école Pigier, alors je pige maintenant.
Tu vois, je suis toujours amusant. Et bien, dans ce film, nous avions fait pas mal de petites choses. Et notamment, je me souviens qu'à ce moment-là, ta voix était déjà connue, puisqu'on connaissait les cartes postales.
Oui.
Mais les gars du pays, ils ne te connaissaient pas. Et je me souviens, ils arrivaient tous à vélo de tous les coins du parcours en me disant « Lequel que c'est, le gars Bourvil ? Où c'est qu'il est, le gars Bourvil ?» Et ils te connaissaient pour la première fois, car la radio n'avait pas, hélas, à ce moment-là... les possibilités qu'elle a maintenant.
Ah non,
bon, et puis ma foi, la vie nous a séparés. Nous avons fait d'autres films ensemble, nous en avons fait plusieurs.
Quatre, je crois.
Et tu as chanté dans chaque film d'ailleurs.
J'ai chanté, enfin, si on peut appeler ça chanter.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité.
La célèbre tactique du gendarme, signée André Bourvil et Étienne Lorrain, tirée du film Le Roi Pandore, réalisé en 1949 par André Berthomieux. Davantage accaparé par le cinéma et le tour de chant, Bourvil attendra donc quelques années pour revenir à l'opérette. En décembre 1950, il est cette fois au Théâtre de l'Étoile qui affiche Monsieur Nanard. Quelques jours avant la première, il est invité à la Radio Nationale par Lise et Lina en compagnie de Bruno Cocatrix qui a co-signé la musique avec Étienne Lorrain.
Monsieur Nanard, c'est un surveillant de colonies de vacances.
Oh, oui. Mais ça doit vous rappeler des souvenirs terribles, les colonies de vacances.
Oui, oui. Enfin, moi j'étais un enfant sage, vous savez.
C'est vrai ?
Oui, oui.
Et alors, ça vous amuse de jouer avec des enfants ?
Ah oui, beaucoup, oui, parce que c'est très sympathique. Et les enfants jouent avec beaucoup de naturel.
Cocatrix, venez nous parler un petit peu techniquement de cette opérette.
Eh bien, comme vous l'a dit Bourville, il s'agit d'un professeur, d'un surveillant plus exactement de colonie de vacances. Et ce surveillant a un défaut mignon, il est en même temps inventeur. Mais vous savez, pas un grand inventeur. Il invente le tire-bouchon à vapeur et entre autres le pare-brise, l'essuie-glace à musique.
Ah, mais vous ne nous avez pas dit ça, Bourville.
Ah oui, c'est que je cache.
Et alors, il est aux prises avec une aventurière qui, elle, est à la recherche d'un inventeur sérieux qui, lui, a inventé le rayon de la mort ou je ne sais trop quelle invention extraordinaire. Et elle doit le kidnapper et elle se trompe, elle kidnappe Bourville à la place parce qu'on lui avait dit que c'était un inventeur. Alors, il a les pires soucis avec cette aventurière et avec trois gangsters dont le chef est Pierre Mingan.
Et vous chantez naturellement dans cette opérette?
Ah oui? Non, non, mais en soliste. J'en chante.
En soliste, lesquels?
Oh, ça vous c'est nana, je chante la chanson des objets, je chante une chanson d'amour aussi, rendez-vous compte.
Une chanson d'amour et sérieuse.
Et en costume?
Ah, ben forcément.
En quoi êtes-vous?
Il est en maillot de bain d'abord, il est en forçat, en bagnard.
Ah, ça doit être.
Il est en hollandais et il termine en
hollandais.
En hollandais, oui, parce qu'il y a une partie de l'opérette qui se passe en Hollande.
Alors vous allez nous chanter une petite chanson.
Je vais vous chanter La Parisienne, qui est une des dernières chansons du deuxième acte.
Deuxième acte. Eh bien, on va demander à Cocatrix, qui joue brillamment, comme chacun le sait, du piano, s'il veut bien aujourd'hui accompagner Bourville.
Alors, voilà. Les petites hollandaises me demandent. Comment sont les Parisiennes? Comment elles s'habillent? Comment elles sont, enfin, quelles sont leurs vies? Et
vous répondez.
Et je réponds par cette chanson. Voilà, La Parisienne.
Elle a des chemises de satin, porte de Saint-Denis, porte Champéret, porte Saint-Martin, des robes décolletées jusqu'ici, porte d'Arcueil, porte de Vanves, porte d'ici, et puis des dessous originaux. Porte danière, porte dorée, porte maillot, avec partout de la dentelle, porte d'Ivry, porte de Pantin et porte jartelle. Aïe ma mère, aïe mon père, la Parisienne ne se refuse rien. Aïe ma mère, aïe mon père, la Parisienne est une femme très bien. Souvent, elle aime faire de l'œil, porte d'Éterne, porte Saint-Cloud, porte d'Auteuil. Son cœur palpite sous son corsage, porte de Choisy, porte de Sèvres, porte bagage. Et quand elle vous a dans la peau, porte Molitor, porte Dauphine, porte drapeau. On ne peut résister à son charme, porte d'Orléans, porte d'Italie et porte armes. Aïe ma mère, aïe mon père, la Parisienne ne se refuse rien. Aïe mon oncle, aïe ma tante, la Parisienne est une femme très bien. Pourtant, il y en a qui sont rosières, porte de Vincennes, porte Clignancourt, porte cochère, mais qui finissent par se donner, porte des lilas, porte de Saint-Ouen, porte monnaie. Bientôt, elles arpentent le bitume, porte de Versailles, porte de Clichy et porte plume. Et puis, elles tombent dans la débauche, porte de Montreuil, porte parapluie et porte à gauche. Aïe ma mère, aïe mon père, la Parisienne ne se refuse rien. Aïe mon oncle, aïe ma tante, la Parisienne est une femme très bien.
En décembre 1952, Bourville entame une collaboration durable avec deux autres vedettes, le beau ténor Georges Guettari et la jeune fantaisiste Annie Cordy. Le trio est à l'affiche de l'ABC, salle aujourd'hui disparue des grands boulevards de Paris, dans la Route Fleurie, une opérette de Francis Lopez sur un livret de Raymond Vinci. Le trio est tellement bien assorti que le spectacle tiendra l'affiche durant 4 ans, ce qui constitue pour l'époque un record de longévité.
C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon,
la vie de patapatachon.
C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans,
mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout. Et l'on chante quand même la nuit dès le jour. Vive la bohème et l'amour.
Cette mansarde des villes où l'on a deux ateliers
nous sert aussi de cuisine et de chambre à coucher.
Nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois,
le jour où l'on déménage à la cloche de bois.
Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner,
tout toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier.
Mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso
et beaucoup plus populaire que Victor Hugo.
Saint-Saint, c'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça vaut? On fait des lettres partout, partout, et nous chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh, 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 oh.
C'est la vie de bohème.
Non, on remet ça, hein, c'est trop joli.
Allons-y.
Allez, chef.
Un, deux.
C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous venons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça vaut? On fait des lettres partout, partout, et on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh, oh.
Escapade, Martin Pennet, France Musique.
L'un des airs les plus connus de la route fleurie par Bourvil et Georges Guettari. Pour la Noël 1955, une fête est organisée à l'ABC à l'occasion de la 1111e représentation de l'opérette et la radio diffuse un reportage réalisé par Pierre Lerouzic.
Et Annie Cordy, elle aussi, était revenue sur le lieu de son crime. Elle était venue voir cette route fleurie qu'elle avait parcourue à moitié puisque vous dressez deux saisons ici.
Deux saisons, oui, jusqu'à à peu près la 500e.
Mais quelle est l'impression que l'on ressent quand au bout de la 500e, on entre en scène pour la 501e fois? Est-ce qu'on n'en a pas, j'allais dire, un mois?
Non. Non, ben je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que nous étions avec une très bonne équipe, et d'ailleurs, je crois que c'est ce que je regrette le plus de la Haute Fleurie, parce que nous étions une excellente équipe, et que tous les soirs, surtout avec Bourvil, ben, l'opérette changeait un petit peu, il faut bien le dire.
Il y a les blagues.
Voilà, nous jouions notre vie, quoi, sur scène.
Et quelles sont les blagues les plus sensationnelles qu'on ait pu vous faire? Et qui les faisait d'abord?
C'était Bourvil, évidemment.
Surtout Bourvil.
Il me racontait des blagues impossibles en coulisses, alors je rentre avec un fou rire. C'était inouï.
Que vous communiquiez immédiatement à la foule.
Voilà,
évidemment.
Exactement. On s'en sortait très bien, d'ailleurs.
Mais il n'y en a pas une un soir qui a dépassé un peu la mesure, qui vous a paru quand même une blague vraiment...
Eh bien non, parce que je ne pourrais pas la dire au micro.
Ah bon? Bon. Et vraiment, on ne ressent donc de ce côté-là aucune
fatigue? Non, je ne crois pas. Non, je crois que si vous avez une bonne opérette comme La Route Fleurie et comme vous avez de bons interprètes avec vous, eh bien, je crois que vous n'êtes jamais lassé.
Et ça vous amuse, vous, l'opérette? Vous aimez mieux
énormément.
Ça que le tour de chant?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est complètement différent, parce que le tour de chant, évidemment, vous défendez tout seul. Tandis qu'à la route fleurie ou une opérette, vous avez les interprètes qui vous aident. Vous comprenez? Alors, c'est
quand
mieux.
C'est rodé, ça y est,
voilà,
c'est fini.
Voilà, exactement, une fois, c'est fini. Tranquille.
Et alors, est-ce que vous allez revenir à l'opérette?
Oui.
Ah,
j'en reviendrai...
Quand, avec quoi?
L'an prochain. Ben, ça, c'est encore un secret.
Et voici le grand responsable des blagues dont nous parlait tout à l'heure Annie Cordy. Voici notre ami Bourvil qui est là et qui est bien le plus joyeux de riz de cette distribution sensationnelle. C'est vrai comme ça que vous n'êtes pas sérieux pendant l'opérette?
Oh, je suis sérieux, mais de temps en temps, il faut bien s'amuser entre nous, parce que quand on joue une pièce si longtemps, si nous étions obligés de respecter le texte tous les jours pendant 1100 fois,
ça serait pas drôle.
Oui.
Alors, autrement dit, vous ne jouez plus la même pièce qu'au début.
Si, nous avons gardé une bonne réplique.
Quant à Georges Guettari, lui, il est plus pétulant que jamais. On a l'impression qu'il va jouer pour la première fois, alors qu'il en est après de sa 1200e fois. Et justement, notre ami Ledoux disait il y a quelques instants qu'on s'était mariés beaucoup tout au long de la route fleurie, que des enfants étaient nés. Car finalement, ça fait combien d'années que ça dure?
Eh bien, ça dure depuis le 9 décembre 1952.
Oh là là, juste après la guerre, quoi. Et on ne sait pas très bien quand ça va finir, mais enfin, ce n'est pas là le problème.
Oui, cette fois-ci, nous savons très bien que ça va finir le 15 juin prochain.
Ah bon, mais vous n'avez pas des trous de mémoire à force de trop savoir votre texte, non?
Ben, c'est-à-dire, il y a deux jours où nous sommes fatigués, pas du tout par l'opérette, mais par l'activité que nous avons dans la journée. Et le soir, très souvent, la mémoire est mécanique. Et très souvent, moi personnellement, j'ai des petits trous de mémoire, mais sans importance, parce que les partenaires sont toujours là pour vous lancer le mot qu'il faut, et le public ne s'en aperçoit presque jamais.
Et alors, quelle est la formule du cocktail? Un peu de tendresse, beaucoup de rire?
Ah, il faut de la sincérité, il faut de la vérité, qui arrive vers la fin de l'opérette, de façon à ce que le public y croit. Mais tout le long de l'opérette, il faut surtout amuser le public en essayant de le faire rire.
Enfin,
le public rit tellement qu'il y a des gens qui sont venus au spectacle, et tenez-vous bien, je n'exagère pas une seconde, ils sont venus au spectacle 50 fois, 75 fois, depuis 3 ans.
Il y a c'est comme à l'opéra, il y a les abonnés, quoi, enfin l'ancien
opéra. Non, il y a des gens qui reviennent et qui vont revenir encore, et rien que parce qu'ils rient, et chaque fois qu'ils ont l'occasion, qu'ils sont tristes ou ils veulent se détendre, ils reviennent voir l'opérette parce qu'ils rient de nouveau avec les mêmes gags, les mêmes situations. Ils connaissent tout ça par cœur, mais ça ne fait rien, ils rient chaque fois.
Dans cette opérette, La Route fleurie, Bourvile incarne finalement un metteur en scène qui parvient à dompter la pétulante Annie Cordy.
Alors, tu l'as travaillé, bonsoir, monsieur, dame. Je m'excuse, je suis en vacances. Alors, tu l'as travaillé, la chanson, là, genre « Padam, padam » que je t'ai composée? Elle te plaît?
Oui, elle est pas mal, c'est pas une... Hein? C'est pas une déclaration d'amour, mais enfin, elle a quelque chose.
Elle a quelque chose, elle a des tripes, comme tu me l'avais demandé. Tu la sais un peu?
Presque.
Tu voudrais pas nous la chanter?
Tu y tiens?
Oui, parce que figure-toi que je voudrais te la mettre en scène.
Ah bon?
Ah oui, ça t'aidera beaucoup dans ta carrière, surtout ce soir, il y a un public choisi.
Ah oui?
Hein? Non. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis, ce sera plutôt bien.
Ah bon?
Je vais chercher ma chaîne.
Bon.
Ne partez pas. Dites, monsieur le chef, soignez particulièrement, hein, parce que c'est moi qui écris les paroles.
C'est au bal qu'il a fait ma conquête. Ce soir-là, il sortait du violon.
Le geste.
Il vibrait au son de la trompette. Il tournait avec l'accordéon. Son petit air des faubourgs tout de suite m'a plu. Ce fut le grand amour, je ne l'oublierai plus.
Elle n'oubliera plus, vous savez. Elle a une mémoire.
Ma petite folie, ma passion, mon mégard, c'est pas un homme, c'est ce refrain.
Non. et vous le dis, voyons. Arrêtez les soins de soins. J'écris en français, non? Ah, j'ai jamais vu ça, alors vraiment, alors, quand j'étais à la Scala, on disait... C'est les feuilles mortes qu'il faudrait vous jouer à vous. Ah, vraiment, ce soir, nous sommes ridiculisés. Vous m'envoyez navré, d'ailleurs. D'habitude, c'est la même chose. Ah, je vous en prie, hein. Regardez-moi cette attitude émouvante. Personne ne lui avait dit de faire ça. Même pas Raymond Rouleau. Mais elle l'a trouvée toute seule. Toute seule. Dans sa petite tête d'artiste. Bravo, ma chérie. Je suis très satisfait de toi. Je parlais de toi, Guérin. Maintenant, en tant que metteur en scène, moi aussi, je vais essayer d'extraire le meilleur de toi-même. Ça va être dur. Ça allait t'épuiser, soir.
Daga! Daga!
Elle va faire le putois, alors, elle va faire Ima Soumak à la fin.
Daga!
Cette scène parodiant le fameux Padam Padam de Norbert Glanzberg, immortalisé par Edith Piaf, est tirée de l'opérette La Route Fleurie, où Bourvil partageait la vedette avec la jeune Annie Cordy. Elle était interprétée par les deux protagonistes lors d'un gala radiodiffusé au profit de la maison de retraite des artistes de Pont-aux-Dames en 1953. Après les 4 ans de triomphe parisien à l'ABC, suivi d'une longue tournée à travers la France, l'histoire de La Route Fleurie prend fin. Mais l'absence des comédiens est de courte durée, car Bourvil retrouve Georges Guettari en novembre 1958 au théâtre de la Porte Saint-Martin pour une nouvelle opérette intitulée Pacifico, composée par Joe Moutet. Il vient la présenter dans l'émission de Jean Grunebaum, avant-première, avec une nouvelle partenaire féminine, Pierrette Bruneau.
Bourvil, est-ce que vous retrouvez dans cette opérette des personnages dont vous avez l'habitude, que vous avez déjà joué autrefois?
Non, parce que je suis un clochard brocanteur. Moitié clochard, moitié brocanteur. Je suis un clochard qui a bien réussi, quoi. Je fais un petit peu de commerce au marché aux puces. Et après, je retrouve quand même le personnage comique que j'ai déjà eu dans d'autres opérettes. Je fais le clown là-dedans, vous savez, je fais le pitre, je fais le rigolo.
Et comment s'explique le titre Pacifico?
Ouais, ça s'explique parce que nous partons de Paris, nous laissons les puces pour tourner un film dans une île du Pacifique. Et comme dans ce personnage, Guettari est italien, et il paraît, moi je ne suis pas très instruit, n'est-ce pas? Il paraît qu'on dit Pacifico en italien, et voilà pourquoi, au lieu de dire Pacifico, on dit Pacifico.
Et l'élément, l'éternel féminin dans tout ça?
Ah, ben, la partenaire de Georges s'appelle Corinne Marchand. Et moi, j'ai une comédienne comme partenaire qui s'appelle Pierrette Bruneau.
Pierrette Bruneau, d'où venez-vous?
Eh bien, moi, je suis, comme vient de le dire M. Bourvil, un transfuge du théâtre. Je fais de l'opérette pour la première fois.
Et comment s'est effectué le passage?
Eh bien, un jour, M. Bourvil m'a téléphoné et puis, subjugué par son charme, j'ai accepté.
Vous avez vu, elle m'appelle monsieur, hein? C'est pas vrai, elle m'appelle plus monsieur. Hein?
Et naturellement, vous avez des scènes ensemble dans l'opérette.
Ah oui, des scènes drôles et des scènes charmantes. Et nous avons un duo qui, je crois, est un beau duo d'amour. Si vous voulez l'entendre, vous allez voir comment Pierrette Bruneau, chanteuse lyrique, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle allait le mettre sur ses cartes postales. Pierrette Bruneau, comédienne, dramatique et lyrique, en majuscule. Alors... on va écouter ça et on verra si c'est justifié tout ça. Hein?
Je voulais te parler depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est bien le moment. Tant pis si je le dis maladroitement. Ben voilà, je t'aime bien. Chaque fois que je te vois dans l'embarras, j'aimerais pouvoir te sortir de là. Et bêtement, je pense que ça t'aidera.
si je te dis je t'aime bien.
Oh, Capucine.
Oh, Casimir. Quoi?
Bah, il fait chaud.
Quand des fois tu fais une tête comme ça, y en a d'autres qui se moqueraient de toi. Aimez-moi si je suis la seule qui ne rit pas, c'est parce que je t'aime bien.
Capucine, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. T'as dû voir que si je te parlais pas, j'étais toujours là quand t'étais là. Alors je me disais, et comprendra, que moi aussi, je l'aime bien.
L'opérette suivante de Bourvil ressemble davantage à une comédie musicale. Intitulée La Bonne Planque, elle est donnée au Théâtre des Variétés en septembre 1962. Au beau milieu de la pièce, le comédien se lance dans un twist échevelé composé par son vieux complice Étienne Lorrain et qui n'a rien à envier au twist du canotier enregistré au même moment par Maurice Chevalier avec les Chaussettes Noires. La vague yéyé atteint donc jusqu'à l'ancienne génération, mais Bourvil y trouve surtout l'occasion de faire un numéro burlesque dont il a le secret, avec en prime Pierrette Bruneau en guise de choriste.
Je pourrais faire ça 10 fois par jour. Je pourrais faire ça 1000 jours. Machinalement, tout en twistant. Je pourrais faire ça avec passion, en regardant la télévision. On ne dirait pas, mais je suis comme ça. Mon médecin, d'un air chagrin, m'a dit monsieur, pour vivre mieux, faut pas faire ça 10 fois par jour. Je ne l'écoute pas, je fais le sourd. C'est un besoin, je n'y peux rien. Quand je fais ça 10 fois par jour, quand je fais ça la nuit le jour, ma cafetière fait des éclairs. Je suis comme un chat dans le bouillon. Je mords, je crie, je fais des bonds. C'est du tonnerre. Je suis tout en air. Mais le docteur avait raison, mon petit cœur ne tourne plus rond. Je ne le ferai plus à 100%, je mettrai même de l'eau dedans. Pour ma santé, je ferai mon café.
Sacré Bourvil, il a la santé, hein. Et pour sa dernière opérette, eh bien, Bourvil revient aux sources sur la scène de l'Alhambra en octobre 1965 en compagnie d'Annie Cordy. Étienne Lorrain et Gaby Wegenheim ont composé pour eux la partition de Wawa. Elle est présentée par les actualités de France Inter avec un reportage de Nicole Brice.
C'est une opérette, une comédie musicale, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une opérette.
Opérette,
hein?
Oui.
Ne disons pas que c'est une comédie musicale, c'est une opérette.
C'est une autre forme.
C'est un divertissement musical. Voilà. Ce décor vous paraît un peu insolite, parce que vous ne connaissez pas l'histoire.
Mais qu'est-ce qui vous a réuni, vous, Bourvil, et vous, Annie Cordy, dans ce studio de cinéma? Quel rapport avec Wawa?
Ah, ça, alors à toi.
À moi, ah. C'est que Annie, dans le l'opérette est une chanteuse plus ou moins brillante. Moi, je suis pompier, je suis garde-chasse, j'ai un peu toutes les professions. Et en amateur, je chante.
Amateur, compositeur, chanteur.
Et dans mes services de pompier, un jour, j'ai sauvé une femme. Et comme par hasard, cette femme, elle était la belle-mère d'un producteur de films. Et pour me récompenser, elle dit, bon, ben, je parlerai de vous à mon gendre, qui est producteur. Alors moi,
c'est un sujet très délicat.
Alors, fort d'avoir sauvé la belle-mère, je me présente chez ce producteur et nous croyons que c'est un grand producteur. Et puis finalement, c'est tout simplement un producteur de films publicitaires. Alors on est habillé en Antoine et Cléopâtre, on croit qu'on va refaire
un remake d'Antoine et Cléopâtre. Nous sommes.
On se croit déjà Burton Listeller et Burton. Et finalement, il nous a pris pour faire une publicité sur des cacahuètes.
Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie.
Et le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Je suis née sous la balance.
Ça rime avec la chance.
Chouette alors.
Moi, je suis du Capricorne.
Non. Oui. Ça, c'est bon à cause des cornes.
Vous croyez?
Moi, je m'appelle Caroline.
Ça rime avec Caline. Moi, je m'appelle Nicolas.
Oh là là, oh là là. Alors là, vous êtes chocolat. Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera.
Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie.
Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance, le petit coup de chance est toujours là.
La carrière d'opérette de Bourvil s'arrête donc en 1966 avec Wawa. Il se consacrera désormais au cinéma qu'il accapare de plus en plus. Depuis les années 50, il a tourné de nombreux films, mais tous ne comportent pas de chansons. Avec La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, qui a valu en 1956 à Bourvil la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine, ce dernier aborde des rôles sensiblement plus consistants qu'à ses débuts. André Cayatte lui confie même en 1958 un rôle dramatique dans Le miroir à deux faces, une évolution que Bourvil expliquera au micro de Sophie Dumoulin pour l'émission Rendez-vous à 5 heures en 1966.
Vous êtes heureux dans votre métier, Bourvil ?
Ah oui, très très heureux. Je fais un métier que j'aime. Faire rire, j'adore ça.
Et pourtant, vous savez si bien nous attendrir aussi ?
Oui, alors, quand les metteurs en scène ont un sujet sérieux, il me demande d'être sérieux, alors je suis sérieux. Je suis d'abord très heureux quand un grand metteur en scène a un grand sujet qui fait appel à moi pour un rôle sérieux. Je suis très flatté parce que moi qui n'étais qu'un amuseur public, quand j'ai vu qu'on me confiait des rôles sérieux, au début ça m'a un petit peu fait peur. Maintenant je suis admis parmi les acteurs. Et j'en suis très heureux, quoi.
Et pourtant, lorsque vous êtes sur la scène dans une comédie musicale où vous faites rire le public, ces rires qui montent vers vous doivent être aussi un bonheur pour vous.
Ah oui, c'est la meilleure des récompenses, vous savez, parce que faire rire, on a on a l'impression surtout faire rire aux éclats, vous savez, faire pleurer des femmes, faire Rimmel, si on en arrive là, on est récompensé. Parce qu'on a l'impression de faire du bien, d'apporter un soupir de bien-être aux gens. Et bien ça, vous voyez, c'est agréable, hein.
Au pays des Guédarayons, il y avait toute une fille qui vendait des glaces citron et vanille. Au pays de Guédarayons, il y avait un garçon qui vendait des glaces aux vanille et citron. Marchand de glace, c'est un très bon métier, pas au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mouron, pas tapant. Marchand de mouron, c'est pas marron.
La finale.
Moi j'en vendais pour les oiseaux.
La finale.
Mais les oiseaux préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux.
Ils se sont trompés là.
Oui, plutôt un peu. Au pays des Guédarayons, il y avait du cul d'une fille qui vendait des glaces au citron et vanille. Au pays des Guédarayons, il y avait toujours un garçon qui vendait des glaces au vanille et citron.
Oui, vous avez bien reconnu la chanson « Aragon et Castille » de Bobby Lapointe que Bourvil a lancée en 1954 dans le film « Poisson d'avril ». Lapointe était alors totalement inconnu et cherchait depuis plusieurs années à placer ses chansons auprès des vedettes. C'est à la suite d'une rencontre avec Étienne Laurin, l'alter-ego musicien de Bourvil, que le texte est mis en musique et incorporé dans ce film. Mais la chanson passe inaperçue, de sorte que Bobby doit continuer ses petits boulots et ses auditions dans les cabarets jusqu'au moment où il l'enregistrera lui-même en 1960. En 1956, Bourvil participe avec Luis Mariano à la version filmée de l'opérette de Francis Lopez, le chanteur de Mexico. Néanmoins, au fil des ans, les films de Bourvil incluront de moins en moins souvent de chansons. Parmi les exceptions, un film de 1960, Le Tracassin ou Le plaisir de la ville, qui comporte une jolie valse de Georges Vamparis sur un texte de Bernard Dimet, puisqu'on s'aime.
La gare Saint-Lazare à 6h30, le métro bondé, tous au portillon.
Les grands magasins, ça tient de la folie, tout le monde se bouscule sans faire attention.
C'est une belle journée, j'ai deux contredanses, si tout marche bien, demain ce sera trois.
Payez le téléphone, il faudrait que t'y penses, c'est un vrai cauchemar, c'est trop à la fois.
Mais avec toi, les rues de Paris me semblent jolies quand même.
Tu me regardes et je te souris. Pourquoi se poser des problèmes? Depuis toujours, pour les amoureux,
c'est bien du pareil au même. Pour être heureux, il en faut si peu, puisqu'on s'aime. Tous les bâtons blancs s'agitent en cadence et tous les taxis vont à Levallois.
Content, pas content, aucune importance, on arrivera bien comme les autres fois.
Une aile arrachée, trois embouteillages, si ça continue, j'ai ma crise de nerfs.
Non, surtout pas toi, je suis folle de rage, Paris nous mettra la tête à l'envers.
Mais avec toi, les rues de Paris me semblent jolies quand même.
Tu me regardes et je te souris. Pourquoi se poser des problèmes? Depuis toujours, pour les amoureux,
c'est bien du pareil au même. Pour être heureux, il en faut si peu, puisqu'on s'aime. Mais avec toi, les rues de Paris me semble jolie quand même.
Pour être heureux, il en faut si peu, puisqu'on s'aime. Pour être heureux, il en faut si peu, puisqu'on s'aime.
Bourvil et Pierrette Bruno dans le film d'Alex Joffé, Le Tracassin. On peut entendre Bourvil chanter dans quelques autres films de cette période, Le Chemin des Écoliers en 1959, Le Capitan en 1960, Tout l'or du monde l'année suivante et Le Magot de Joséphine en 63. Si le public l'encense pour ses grands rôles comiques avec Louis de Funès, Bourvil aime aussi incarner des personnages plus graves. L'étendue de ses dons de comédien est en effet très large. Et lorsqu'en 1968, la journaliste Annick Beauchamp essaie pour l'émission Madame Inter de comprendre comment il arrive à passer d'un genre à l'autre avec autant de facilité, Bourvil est plutôt embarrassé.
Oh, c'est difficile. Je ne peux pas l'expliquer. C'est-à-dire, je fais ce métier avec d'instinct. Ce qui est drôle, je le manifeste drôlement, puis ce qui est triste, je le manifeste d'une façon triste. Je joue, je me mets dans la peau du personnage, et c'est tout.
Et vous n'avez pas besoin d'une certaine période d'incubation pour bien connaître votre personnage, non?
Enfin, j'y pense, je relis le scénario plusieurs fois, je fais changer quelque chose. Parfois, je suggère des choses à l'auteur pour améliorer. Et puis, j'apprends les tirades, les plus longues tirades.
Oui.
Et puis, une fois qu'on a ce qu'on a à dire, en plus, on vous habille comme le personnage doit l'être. Il n'y a plus à penser. D'ailleurs, moi, je ne pense pas beaucoup.
Allons.
Se lance, on se jette à l'eau. Et puis...
oui. Ça m'étonnerait qu'un Normand ne pense pas beaucoup.
Non, croyez pas, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un monsieur qui a des problèmes philosophiques, métaphysiques. Non, c'est vrai.
Est-ce que vous croyez que les auteurs ont tous des problèmes?
Enfin, les grands auteurs.
Oui.
Je suppose, moi je ne sais pas.
De toute façon, vous en fichez, mais alors complètement.
À part mes crayons, je n'ai jamais rien écrit. Alors. Non, j'aurais bien aimé être un grand auteur.
C'est vrai?
Ah oui, j'aurais bien aimé être, par exemple, Marcel Aimé. J'aurais bien aimé être Marcel. Ouais. C'est pas difficile.
Remarquez que Marcel Aimé aurait peut-être aimé être André Bourvil.
Ah oui, j'aurais bien voulu savoir écrire comme il a écrit.
Vous n'avez pas de regrets?
Ah non, du tout. Non, moi, j'ai pas l'air aigri.
Non, pas du tout.
Bon, ça va.
Comment choisissez-vous vos rôles, d'ailleurs, d'une manière générale?
Je lis beaucoup de scénarios, comme on voit. Et puis, je travaille souvent avec les mêmes metteurs en scène, mais par exemple avec Gérard Horry, j'ai déjà travaillé deux fois, je vais retravailler une troisième fois.
Et avec Alex Joffé, vous aussi, avez fait je ne sais pas combien de films avec lui.
Six films avec lui.
Vous êtes fidèle, j'ai l'impression.
Je suis fidèle à ceux qui m'aiment bien.
Ouais.
Vous aussi.
Ça, c'est une réponse de Normand.
Mais oui, mais sinon, ce n'est pas une réponse de Normand, c'est une réponse de...
Bourvil tourne avec de grands réalisateurs, aussi variés que Claude Autant-Lara, Gilles Grangier, André Hunebelle, Alex Joffé, Christian Jacques, Gérard Horry, bien sûr, Robert Enrico, Léon Johannon ou Jean-Pierre Mocky. Dans La Grande Lessive, en 1968, ce dernier fait chanter à Bourvil un genre de cantique assez irrévérencieux, le Petit Agneau, sur une musique de François Drouet.
Petit agneau.
À bientôt, mon petit agneau.
À bientôt, mon petit agneau.
Un petit agneau, dans son sein, je te conduirai par la main.
Par la main.
Sur le droit chemin.
Sur le droit chemin qui mène au Seigneur, sur le droit chemin qui mène au Seigneur.
La carrière de Bourvil au cinéma sera hélas interrompue par la maladie. Ses derniers grands rôles seront en 1970 « Le mur de l'Atlantique » de Marcel Camus et « Le cercle rouge », film policier de Jean-Pierre Melville. Sa disparition endeuille tout à la fois le monde du cinéma, de l'opérette, du music-hall et de la chanson. Ses talents de chanteur étaient aussi divers que ceux de comédien et c'est ce que nous aurons l'occasion d'explorer la semaine prochaine. Je remercie Éric Boisset à la technique et Christine Amado à la réalisation. Pour les archives de l'INA, Catherine Louboutin et Anne Lorveil. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine à l'écoute de France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.